soir. Donc, merci d'être venu pour cette soirée des archives de la revue Archives de philosophie. Ça résonne fort, je trouve. Archives de philosophie, autour d'un dossier qui a été dirigé par Carole Meynier, philosophie de la photographie. Voilà. Nous avons souci dans le comité de rédaction d'honorer cette dimension, ce champ de l'esthétique. Et comme la revue est aussi une revue qui travaille sur les lieux de recherche, dire qu'avec le dossier philosophie de la photographie, du côté de ce travail de recherche, la revue est comblée. Voilà. Si je peux, je présenterai le déroulement de la soirée. Donc, en un premier temps, Carole Meynier et Michael Lucken, que je présenterai, exposeront quelques éléments de réflexion à partir de leurs articles. À partir de là, il y aura un temps de questions, mais on s'adaptera aussi. Et puis, dans une deuxième partie, Patrick Tosani et Guillaume Le Gall se mettront aussi à exposer et leurs travaux. Il y a deux dimensions dans ce dossier qui a été coordonné par Carole Meynier. Il y a d'abord, je dirais, une ouverture vers des philosophies non occidentales et le Japon. Et puis, une ouverture du côté de l'histoire de l'art et des spécialistes de la photographie, de la pratique de la photographie. Et ce qui apparaît extrêmement intéressant dans ce dossier, c'est que la philosophie n'est pas dans une position de surplomb, mais de travail et de dialogue, un peu comme nous organisons cette soirée ce soir. Alors, je vais présenter... vous voudrez la parole en premier, Carole. Voilà, Carole Meynier, qui est professeure de philosophie à l'université de Lausanne. Et quand on regarde votre parcours de publication, j'en cite quelques-unes. Hein, il y a Une science autrichienne de la forme, Robert Timmerman, publié chez Vrin en 2017. Et la même année, dans le volume des écrits esthétiques, vous avez de Bolzano, vous avez rassemblé avec Rialand Nicolas et Sébastien, vous étiez tous les trois coéditeurs, des œuvres choisies de Bolzano en 2017 chez Vrin sur les écrits esthétiques. Et puis, il y a des éléments de collaboration avec Michael Lucken, c'est ce qui rend ce dossier intéressant, c'est que les auteurs travaillent ensemble, si je puis dire. Enfin, on se rend compte, et c'est ce qui va paraître ce soir. Il y a à faire un saut dans le miroir, un article qui a été publié, une contribution qui a été publiée dans Nakai Masakazu, Introduction à l'esthétique, texte traduit, édité, annoté par Michael Lucken, Presse du réel. Et puis, vous travaillez aussi avec Mathieu Amat, Philosophie de la culture, Forme de vie, que vous avez publié chez Vrin en 2022, et je crois sous presse, donc, dans The Archaeology of Movement, coédité par Maria Torjakada et Benoît Turchetti, à Amsterdam Université Presse, et bien un article sur Photographing Schulzer. Donc on voit que la photographie est présente dans vos recherches. Alors je vous donne la parole.
Alors je vous remercie. Je vous remercie toutes et tous d'être là ce soir pour cette soirée. Vous m'entendez bien, ça va? Parce qu'en plus, je suis enrhumée, comme vous pouvez le comprendre, et donc j'espère que ma voix est relativement audible. Je remercie, bien entendu, les archives de philosophie de nous avoir donné l'opportunité de développer ce numéro, et notamment à Laurent Gallois, avec qui la discussion a été très fructueuse. Et puis je remercie évidemment mes amis et collègues qui sont là, donc Michael Lucken comme Guillaume Le Gall. Et je remercie infiniment Patrick Tosani d'être là aussi, puisque nous avons un artiste photographe, donc le panel est en quelque sorte complet. Donc la philosophie, l'histoire de l'art, la japonologie et un artiste photographe. Le but de ce numéro, c'était justement d'ouvrir l'objet, donc de ne pas prendre la photographie comme une évidence, ce qui est très très prégnant dans le travail de Patrick Tosani, justement, dont il sera question plus après. Il s'agissait donc de réfléchir sur un type d'image particulier qu'on ne confond pas avec d'autres images, comme le, du moins c'est ce que la ligne sur laquelle nous sommes, je crois, partis. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord en termes théoriques sur ce que c'est que l'image photographique, mais en tout cas, il y a l'idée de la distinguer d'autres types de supports, le dessin, le tableau, la gravure, et ou le cinéma, dans le cas de Krakauer, dont je vais parler dans deux secondes. Il inscrit une continuité entre la photo et le cinéma, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette position. Ce qui est très important, c'est que c'est le sous-titre de ce volume, donc que vous avez pu voir, de l'empreinte naturaliste à l'objet théorique, c'est que la photographie, d'abord, il n'est pas sûr du tout qu'existe la photographie, grand L, grand P, donc rien n'est moins sûr. Mais de plus, ce que nous avons voulu essayer de mettre tous en scène avec nos horizons différents, c'est le fait que le modèle photographique, enfin le discours sur la photographie qui semble le plus évident, c'est un discours autour de l'empreinte. C'est le premier terme de ce sous-titre. C'est un discours sur l'empreinte, autrement dit, le photographein, la lumière qui s'inscrit sur un support photosensible. Et l'idée, c'est que ce discours extrêmement prégnant est un discours qui est aussi très problématique. Vous allez le voir au fil de nos propos aux uns et aux autres. Et c'est un discours, en tout cas, qui mérite d'être dépassé. Telle était la prise de position de ce volume, en considérant que c'est un objet théorique. C'est-à-dire que j'emprunte l'expression à Hubert Damisch et à Rosaline Krauss, même si je ne partage pas forcément toutes leurs positions théoriques, justement, mais j'emprunte cette expression d'objet théorique à leurs écrits de critique d'art et de philosophie, dans le cas de Damisch, qui est à la frontière, pour dire que l'image photographique, et c'est ce que je vais exposer dans deux secondes autour du cas de Krakauer, déplace un certain nombre de catégories philosophiques et qu'à ce titre, c'est un objet théorique à part entière. C'est ça, je défendrai mordicus cette idée. C'est un objet théorique à part entière, quand bien même il n'y a pas la photographie qui puisse rassembler l'ensemble des images photographiques qui sont produites. J'en veux pour preuve une exposition qui avait lieu en 2015, qui s'appelait « Qu'est-ce que la photographie ?» que vous avez probablement vu, organisée par Chéroux, et qui concluait sur l'impossibilité d'une ontologie de l'image photographique par les artistes eux-mêmes. Alors, un objet théorique, parce qu'il y a, à mon sens, une reconfiguration de concepts clés de la philosophie, et peut-être aussi que l'image photographique déplace de manière qui plus est non seulement radicale, mais très probablement inachevée et inachevable un certain nombre de ces concepts, puisque la photographie elle-même n'en finit pas d'évoluer et de transformer ses propres procédures. Donc on n'est même pas face à quelque chose, l'image photographique qu'on pourrait immobiliser dans le temps comme étant cette image-là, mais on est face à des procédures qui n'en finissent pas de se déployer. Et de déployer une auto-réflexivité sur ce que c'est que la photographie aussi. Il est assez frappant de voir comment des artistes contemporains rejouent la question de la première image photographique, notamment par des hommages à Niepce. Alors, quand je dis qu'il s'agit d'une reconfiguration de concept, ça explique pourquoi ce numéro est aussi ouvert, et donc je voudrais vraiment souligner l'importance de la collaboration avec mes collègues et amis ici présents. C'est que discuter de l'image photographique me semble impossible sans discuter avec des historiens de la photographie, mais impossible aussi sans discuter avec des photographes, des artistes photographes sur leurs propres procédures, et enfin discuter avec des traditions philosophiques qui ne parlent pas le langage de l'empreinte dans la conception de l'image photographique. C'est le cas de Nakai, ce philosophe japonais que Michael Lucan m'a fait découvrir. Alors, dans le cas que, enfin, dans le texte que j'ai essayé de vous proposer, dans le numéro, Je me suis intéressée donc à un critique, pardon, un critique et théoricien de la photographie et du cinéma qui est Siegfried Krakauer. Donc Krakauer est un des grands, je dis juste deux mots biographiques pour me lancer après et vous faire comprendre d'où ça parle justement en philosophie. Krakauer est un des grands critiques du cinéma de la République de Weimar et un ami très proche d'auteurs aussi importants qu'Adorno, que Benjamin, que donc l'école de Francfort mais aussi Benjamin qui a une position un peu particulière par rapport à cette école. En tout cas, Krakauer a une position institutionnelle très intéressante de critique, disais-je, qui n'oublie jamais la question de la théorisation. Le parcours de cet homme est tout à fait étonnant et bousculé évidemment par l'histoire, puisque en 1933, Krakauer est d'origine juive, il doit, et en plus situé très à gauche sur l'échiquier politique, donc Krakauer part juste après l'incendie du Reichstag. Et là s'ensuit une errance qui dure plusieurs années, 8 années à Paris. Il parle un français absolument époustouflant, j'ai vu de la correspondance de Krakauer en français quand il cherche de l'aide qui est un niveau absolument impressionnant. Pendant cette période, il va écrire un texte très connu sur Offenbach, enfin il va s'intéresser à la, il connaît très bien la littérature et le champ culturel français, et ces 8 années de grande souffrance, de pauvreté, d'exil, enfin ces histoires d'exilés allemands que vous avez déjà entendues dans les années 30. Un exil qu'il partage avec Benjamin, qu'il partage avec avec d'autres. Et puis, c'est la possibilité, contrairement à Benjamin, de prendre un bateau, un des derniers, qui l'emmène aux États-Unis. Et là, à New York, il réinvente une vie. Enfin, il faut imaginer la bascule d'abord de l'allemand à l'anglais, radical, et de la bascule dans un univers culturel qui n'est pas du tout le sien. Et pendant ces années américaines, il va écrire plusieurs ouvrages, et j'ai concentré, donc je ne déplie pas l'ensemble des propos de Krakauer, mais je me suis concentrée sur sa théorie du film. C'est un ouvrage qu'il a écrit pendant 20 ans, et c'est un ouvrage assez bizarre à lire, si vous voulez, puisque le changement de régime d'écriture fait que le texte est un peu opaque, mais j'ai essayé justement d'entreprendre un travail de clarification. Donc Krakauer est parti de la forme très courte de la critique de film pour passer à un ouvrage théorique plus long, et de toute évidence c'est une écriture qui n'est pas tout à fait la sienne, enfin qui crée des difficultés propres à sa plume. J'ai voulu interroger donc un néologisme et j'attire votre attention sur le fait qu'il y ait précisément l'émergence d'un néologisme pour parler de la photographie dans le texte de Krakauer. Autrement dit, il y a besoin d'inventer une expression particulière parce que l'objet dont on parle est particulier et engage des procédures et des réflexions qui sont inédites. Donc un néologisme qui est caméra-réalité, traduction directe de l'anglais, caméra-réalité avec un trait d'union entre les deux mots. Ce qui veut dire que quand Krakauer parle de la photographie, il ne parle pas de la photographie de l'appareil photographique de la réalité, il ne parle pas de l'appareil photographique face à la réalité, il crée ce néologisme improbable, caméra-réalité, en un seul bloc. Pourquoi un néologisme ? Parce que pour lui, il y a une rupture dans l'émergence de l'image photographique. Et d'ailleurs, un terme qui revient, et qui revient pas que chez lui, qui revient chez Michael Fried, enfin, qui revient chez d'autres auteurs, désormais, il va falloir réfléchir sur la photographie, désormais, nous sommes face à une image, à nulle autre pareille. Cette rupture, donc, qu'instaure le régime de la photographie, l'invite, à mon sens, et c'est la thèse que je développe dans cet article, l'invite à relire des aspects cruciaux de la critique de la raison pure et à relire des éléments très classiques de la philosophie, tels que le jugement, tels que la perception, tels que le statut de l'image, le sujet, l'objet, des concepts très classiques de la philosophie qu'il va reprendre de manière extrêmement fine, à mon sens, si on veut bien se donner la peine de débroussailler l'ouvrage Théorie du film. Alors, en un mot, pour résumer ce qui se passe avec ce néologisme, ce trait d'union, caméra-réalité, ce trait d'union, c'est la critique de la synthèse transcendantale a priori de Kant. C'est le fait que cette synthèse transcendantale a priori n'est plus possible avec l'image photographique, alors qu'elle l'est avec d'autres types d'images, le tableau, le dessin, et introduit donc non plus la possibilité de la synthèse, voire même la nécessité de la synthèse, mais introduit une, ce que je qualifierais d'une liaison dans la déliaison, et je vais essayer de m'expliquer au fil de mon propos. Pourquoi y a-t-il une relecture de la critique de la raison pure? Il ne faut pas oublier que Krakauer a lu avec Adorno comme élève. C'est partie des anecdotes de l'histoire de la philosophie que vous connaissez très probablement, mais ils ont lu pendant un an tous les dimanches la critique de la raison pure ensemble. Chacun a les loisirs qu'il peut, donc le leur c'était celui-là. Relire la critique de la raison pure en détail, dans sa longueur, et ça se sent de manière très nette dans l'argumentation de Krakauer. Donc, disais-je, ce trait d'union, c'est l'impossibilité de la synthèse transcendantale a priori, et c'est donc une liaison dans la déliaison. Ce n'est pas l'image photographique comme fenêtre ouverte sur le monde, comme transparence, ce qui fait partie des discours très, très classiques sur la photo. C'est une réflexion sur ce que l'enregistrement fait au jugement. Qu'est-ce qui se passe quand l'image, elle n'est pas une image faite de main d'homme, elle est achéropoïète, dit-on, elle est donc faite par l'appareil, et cet appareil induit, si vous voulez, une réflexion sur le statut de l'image et de l'imagination qui me semble extrêmement importante dans le texte de Krakauer. Ça va aller très loin, cette réflexion, je regarde ma montre parce qu'on a un temps de parole limité, et il me reste combien ?
5-6 minutes.
C'est bon, je serai bon. Ce qui me semble très intéressant, c'est que cette critique donc de la synthèse transcendantale a priori fait que il y a donc un raté de la liaison dans l'image photographique, telle que la pense Krakauer, mais pas un raté qui n'est que négation ou qui n'est qu'échec. C'est en tout cas quelque chose de totalement déplacé par rapport à ce que peut ou ce que veut le texte kantien. Ainsi, et c'est là qu'il y a un des ponts avec Nakai, on en avait un peu discuté avec Michael, il va y avoir une critique de la table des catégories de Kant, donc quantité, qualité, modalité, relation, avec l'installation non plus de catégories mais de ce qu'il appelle des affinités, c'est-à-dire d'essayer de qualifier cette caméra-réalité par des catégories, mais qui ne sont plus des catégories kantiennes, voire même qui sont des anti-catégories, puisqu'il les qualifie, il en a quatre, l'image photographique, c'est du non-artificieux, du sans-fin, de l'indéterminé et du fortuit. Que des qualificatifs négatifs. Donc l'image photographique, au moment même où elle est enregistrement, elle est en fait débordée, si vous voulez, à la fois par le geste et par le matériau enregistré. Autrement dit, l'édifice même, si vous voulez, la construction même de la critique de la raison pure est discutée par l'image photographique qui vient poser le problème d'un jugement qui n'est plus cette liaison transcendantale que j'évoquais auparavant. Quand il dit affinité, vous connaissez le texte classique de l'anthropologie de Kant où il est question d'affinité justement et en plus d'affinité chimique. Donc on se dit, bah voilà, peut-être c'est cela qu'il est en train de rejouer le texte kantien à cause de la métaphore de la chimie qui pourrait être bien pratique pour parler de l'image photographique. Mais que nenni, c'est pas comme ça que ça va se passer. Au contraire, l'affinité contre la catégorie, c'est aussi contre l'anthropologie de Kant. Puisque ce n'est jamais, dans le texte de Krakauer, quelque chose qui relève de la poiesis, de la création, de la confection, si vous voulez, ou de la construction. À chaque fois, l'affinité, c'est le signe de quelque chose qui déborde et qui dépasse. Donc, de manière assez claire dans le texte, l'image photographique, contrairement à d'autres images, vient percuter la possibilité de la perception transcendantale, elle apostrophe, à perception transcendantale, et donc interroge la phénoménalité même du monde qu'elle présente de manière discontinue et aléatoire. À partir de là, il va réfléchir à un type de réalisme que vous avez dans Caméra Réalité, un type de réalisme qui n'est pas celui justement de l'empreinte, de quelque chose qui est inscrit sur la surface sensible, qui n'est pas de l'ordre de l'index, pour reprendre des catégories qui ont été beaucoup travaillées, mais ce qu'il appelle « penser à travers », c'est-à-dire le fait qu'il y a la possibilité, dans l'image photographique, à travers le détail, à travers le discontinu, à travers cette difficulté qu'elle nous impose, il y a la possibilité quand même d'agencer quelque chose du monde. Donc non pas construire, non pas faire, au sens de la poiesis, au sens aussi d'une synthèse effective, efficace, mais la possibilité d'agencer et de toucher la réalité du monde de manière extrêmement fragmentaire. Donc, contre le propos que je donnais à l'avant, caméra-réalité, ça joint cette tension, si vous voulez, une critique de jugement et en même temps la possibilité de rédimer le monde. C'est un vocabulaire qu'on a chez Benjamin, qu'on a chez Adorno aussi, enfin bon, bref. La possibilité, malgré l'échec de la mimésis, parce que l'image photographique n'est pas une copie du monde, justement, puisqu'il y a l'appareil, puisqu'il y a ces catégories qui sont négatives, la possibilité de trouver dans le détail, dans certaines images, un passage à travers, fait sens aussi vers Nakai, un passage à travers, une concrescence du monde exceptionnelle, rare, impromptu, non volontaire, mais en tout cas quelque chose qui fait de l'image photographique aussi une forme d'émancipation, une forme de libération par rapport justement à la technique et par rapport au poids du monde d'une certaine manière. Donc, la photographie dans le texte de Krakauer ne fait jamais œuvre d'art. Donc là, on casse la liaison qu'on a entre le tableau et l'œuvre d'art. Donc elle ne fait pas œuvre d'art. Elle fait à peine, d'ailleurs, dans le texte de Krakauer, puisqu'il n'y a plus vraiment de poiesis. Mais l'enregistrement permet une certaine forme de rédemption, ce qu'il appelle la rédemption de la réalité matérielle. Alors, que veut dire cette expression? Elle veut dire qu'il est possible, dans les contraintes même du médium, dans les contraintes même de cette image singulière, il est possible d'atteindre quelque chose du cœur des choses. Et donc l'enregistrement se retrouve ici, dans la seconde partie de mon propos, l'enregistrement se retrouve réhabilité d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'enregistrement permet de dire quelque chose qu'une autre image ne dirait pas, quand bien même il n'y a pas la possibilité de la penser de manière exclusivement positive et synthétique. En gros, vous avez compris que l'image photographique, la caméra réalité, et je termine mon propos là-dessus, reconfigure les rapports entre sujet et objet. C'est pour ça qu'on n'a pas la caméra de la réalité, ni face à la réalité. On est au contraire dans un univers où la relation entre sujet et objet se redéfinit, et où le face-à-face sujet-objet est cassé. Et donc l'image photographique, je termine sur ce point, je partirai du principe que c'est un objet théorique parce qu'il interroge la tradition philosophique par la mise au jour d'un type d'image qui ne peut pas relever donc de ces images plus classiques que nous rencontrons dans le dessin et dans le tableau. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. C'est précisément un des points de votre article et de votre travail qui vient interroger un certain nombre de notions qui sont installées en philosophie, sujet, réalité, et en particulier tout le courant phénoménologique qui est issu de Kant et retravaillé par Husserl, puisque précisément la caméra réalité vient casser cette affaire pour penser autrement le rapport sujet-objet et le réel. Alors, on passe immédiatement à vous, Michael Lucquen. Vous êtes professeur des universités à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et dans vos travaux, si je puis dire, il y a le Japon. Hein, le Japon avec... j'ai sélectionné trois ouvrages, enfin, deux que j'ai aux archives de philo. Donc, Nakai Masakazu, naissance de la théorie critique du Japon, et c'est intéressant parce que vous montrez comment une certaine manière de voir le réel passe dans un monde a priori supposé hermétique. Et puis, en 2022, donc cette année, l'universel étranger, que je lis personnellement comme une résonance du premier ouvrage, en partant du constat que vous annoncez, en français, il n'y a pas de terme pour désigner l'étude des réalités étrangères. Et au milieu, il y a le Japon grec, cette association de deux termes, dont culture et position, qui était publiée chez Gallimard. Au fond, votre travail est, on va dire, l'organisation de circulation, de va-et-vient entre deux airs qui résonnent sans s'exclure et qui permettent, au fond, de, un peu comme vous le faites, interroger autrement la question du rapport. Pas plus, je vous laisse la parole.
Merci.
Oh pardon, mais vous en aurez besoin.
Voilà, j'ai un petit fichier que je vais... Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les archives de philosophie, Laurent Gallois, Carole Meynier et mes deux collègues. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Et ravi de cette discussion. Ça a été un privilège pour moi de travailler avec Carole Meynier depuis maintenant de nombreuses années. Elle a préfacé la traduction de Nakai que j'ai publié il y a quelques années, qui était le pendant de ce livre que Laurent Gallois a bien voulu vous présenter. Avant de m'engager sur ces chemins qui sont... comment dire, qui se rapproche de la philosophie. Je suis quelqu'un qui a fondamentalement travaillé sur l'histoire de l'art, hein, et en particulier au cours de la période de la guerre et de l'immédiate après-guerre. Et parmi mes travaux, il y a des articles qui tentent de recenser les photographies qui ont été prises à Hiroshima, Nagasaki, en 1945. Hein. Autrement dit, mon premier rapport à la photographie en tant qu'universitaire a été un rapport un peu catastrophique, puisque d'emblée, je me suis retrouvé face à des images qui non seulement montrent la désolation, mais avec une succession d'allers-retours entre la dimension représentative d'une part et la dimension productive de l'autre, éminemment problématique. Je m'explique, il est évident que quand on regarde comment cette... opérer des bombardements comme ceux de Hiroshima et Nagasaki, s'il n'y avait pas eu la photographie, il n'aurait pas eu lieu. Il y avait des multiples caméras embarquées, à la fois sous les avions qui ont largué les bombes, et en plus, il y avait des avions à proximité qui étaient censés prendre des photographies, des films. C'est vrai avant les bombardements, puisqu'il a fallu repérer les zones pour bombarder. C'était vrai au moment des bombardements, puisque les pilotes avaient des photographies qui avaient été tirées en grand pour savoir où ils allaient larguer leurs bombes. Et puis, c'est vrai après les bombardements, puisque les avions sont revenus pour faire l'évaluation des dommages. Et sur place... en dessous, j'entends combien de témoignages disant que, au moment où la déflagration a eu lieu, papa, je me souviens, c'était comme une photographie. C'était comme un flash photographique. Hein, l'idée qu'il y a eu un flash photographique, c'est un lieu commun de la littérature de la bombe en japonais. Je ne parle pas des ombres projetées que vous avez sans doute vues. Bref. Il y a un nombre de correspondances entre photographie et cet événement nucléaire qui est tout à fait spectaculaire. Ça a été réactivé d'une certaine manière en 2011 avec le tsunami à Fukushima, là plus sous l'angle du nucléaire. Bref, Je sens de manière très forte une correspondance entre ces deux régimes. Et elle me pose problème. Comment s'en sortir? C'est un peu ma première interrogation. Est-ce qu'on peut s'en sortir par accepter le tragique? La photographie, en fait, fait partie plus généralement d'un système d'armes, avant d'être un système de représentation, elle est un système d'armes, c'est pour ça au fond qu'elle se développe, c'est de ce point de vue-là qu'elle se développe le plus, hein. Les grandes industries mettent de l'argent, beaucoup, pour développer des techniques de plus en plus sophistiquées, on le voit encore en Ukraine. Donc une vision tragique de la photographie, pas très satisfaisant évidemment. Est-ce qu'on peut s'en sortir par une réaction moderniste, en disant la photographie nous asservit, retournons l'arme contre elle. Enfin, le mouvement moderniste bien connu, c'est là encore un geste problématique, hein, parce que à partir du moment où on n'arrive pas à sortir, hein, ou on n'arrive pas à faire tomber sa cible, celui qui nous a servi. Bref, l'objectif le semble difficile à atteindre. Il y a la position sceptique aussi, bien sûr, hein, qui consisterait à dire, bon, faisons un pas de côté, tout ainsi, nous devons accepter. La position sceptique, elle fonctionne pour les individus, à titre personnel, mais de façon collective, évidemment, elle est extrêmement problématique, elle aussi. Donc, dans un certain régime, hein, il est assez difficile de sortir. En tout cas, c'était ma position de départ, d'une vision catastrophiste, hein, de la photographie. Partout se dressent des apories et des contradictions qui unissent photographie et asservissement du monde. Cet auteur, dont le nom a été mentionné à plusieurs reprises, donc Nakai, hein, est un auteur qui est de la même génération que Krakauer, hein. C'est quelqu'un qui est né en 1900, qui décède en 1952, qui, de façon intéressante, appartient un petit peu au même courant, au sens où il est à la fois un philosophe, spécialiste d'esthétique, tourné vers les questions de la technique, du sport, hein, des nouveaux médias, et il a aussi une activité critique, hein. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui, politiquement, est situé à gauche, hein, qui est proche de l'école, qui serait dans un contexte européen proche de l'école de Francfort. Et d'ailleurs, la revue qu'il a fondée en 1935 a été la première au Japon à établir des liens avec l'école de Francfort. Des correspondances ont existé entre les deux mouvements. C'est donc un petit peu une sorte de pendant japonais de figures comme Krakauer en Europe, voire aux États-Unis. Il a commencé à s'intéresser à la photographie après un travail de universitaire à l'université de Kyoto sur Kant. Donc là encore, il y a un parallélisme qui est frappant. Sachant qu'au Japon, hein, dans les facultés de philosophie, à partir de la fin du XIXe siècle, on ne commence pas par Nagarjuna, on commence par Platon et Aristote. Hein, c'est évident. C'est donc quelqu'un qui s'est intéressé à la photographie dès la fin des années 20, début des années 30, par un texte, hein, qui commence par une parabole. Et cette parabole est la suivante. Vous avez deux peintres qui font un concours, hein, ordonné par un roi. D'un côté, l'un va se mettre à dépeindre le paradis aux nombreux joyaux, dans une perspective bouddhique, hein, magnifiquement. Il passe un temps fou à le faire, hein. Il arrive à quelque chose de somptueux. Puis l'autre n'a pas l'air de faire grand-chose. Il est là, il tourne autour de son mur, mais on ne comprend pas bien ce qu'il fait. Et puis, le jour du jugement arrive, le roi vient, il voit le premier tableau absolument somptueux, une fresque magnifique sur le mur. Puis il se tourne et puis il ne voit rien. Il ne voit rien sur l'autre mur. Et le deuxième peintre lui dit, si, si, il y a bien quelque chose à voir. Et là, tout d'un coup, il réalise que, en fait, le mur a été poli de manière absolument parfaite par ce second peintre, hein, et que non seulement s'y reflète le tableau qui est derrière, parce que les deux murs étaient face à face, mais qu'en plus, toute la cour assemblée, le roi en premier lieu, déambule au milieu de ce paradis, autrement dit, lui donne vie. D'emblée, on voit bien qu'il y a un régime qui l'emporte sur l'autre, c'est une parabole classique, hein, du bouddhisme, qu'il a repris et réactivé dans une perspective photographique. C'est donc l'idée que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on inscrit sur le mur, en tout cas ce n'est pas là que se situe l'essence, donc on n'est pas dans le régime précisément de l'empreinte, mais que ce qui va être le plus proche de la pensée qu'il essaye de défendre, c'est le miroir. Au fond, on n'est pas du tout dans un régime de la, comment dire, de la palette, non, ce n'est pas la palette, la tablette de cire, c'est pas cette image-là qui domine et qui, depuis des siècles, est active dans la pensée en Europe, c'est la métaphore du miroir. Alors bien sûr, je le disais à l'instant, la métaphore du miroir, elle a une place très importante dans la pensée bouddhique. Le miroir, il a deux significations. Il a une signification positive, une signification négative. Il a une signification négative parce que il montre tout ce qui s'y reflète n'est que transitoire, n'est que passager. C'est le monde dont il s'agit de se défaire. Donc ce qu'on voit dans le miroir, d'une certaine manière, c'est le monde des passions, et ça n'a pas de valeur. Et de l'autre, en tant qu'objet, en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire en tant que capacité à refléter les choses sans que rien n'y adhère, il est la métaphore même de ce que l'esprit doit être dans une perspective bouddhique, ouvert absolument aux choses, mais rien n'y adhère, tout passe, tout circule. Cette dimension-là, elle est présente chez Nakai, qui est un auteur dont les principales influences, comme je le disais, sont d'une part une tradition kantienne qui va jusqu'à Cassirer, auteur qu'il cite beaucoup. D'autre part, comme je le disais aussi tout à l'heure, un intérêt marqué pour une certaine pensée de gauche, et en particulier certains textes de Marx et de Lénine, pas tant les textes politiques que les textes qui ont une dimension applicable à l'esthétique. Et ce qui, je crois, domine dans sa perception de la photographie jusqu'à son texte, son livre principal, dans lequel il fait la synthèse un petit peu de tout ce qu'il a écrit jusqu'alors en 1951, donc Introduction à l'esthétique, c'est l'idée d'un abandon. Au fond, la photographie, son essence, c'est une forme d'abandon. Dans quel sens est-ce qu'il faut l'entendre ? Déjà, le mot même qu'on utilise en japonais, qui est shashin, pour parler de la photographie, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, souvent a été traduit par la représentation ou la copie du vrai. C'est vrai, quand on prend les deux caractères, on a l'un qui veut dire la transposition, la copie, et puis l'autre qui veut dire le vrai. Mais il ne faut absolument pas le prendre dans un sens platonicien, ce serait une erreur complète. On n'a absolument pas affaire à un concept de type platonicien. On a affaire à une transposition, beaucoup plus qu'une copie, dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus à travers, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus quelque chose de l'ordre du trans, si on voulait utiliser une racine latine. Et puis la vérité, c'est la vérité de la loi. Et cette vérité de la loi, c'est la vérité qui dit que toute chose est instable et transitoire. Donc on n'est pas du tout dans un régime qui est celui des idéaux platoniciens. Autrement dit, le mot lui-même installe, tel qu'il s'est figé en japonais au XIXe siècle, la photographie dans une forme d'abandon de l'homme au reflet. Ça se joue à plusieurs niveaux. La description que propose Nakai de l'esprit humain est frappante. Il ne distingue absolument pas le cristallin de l'œil, le verre, le cristal, le reflet sur l'eau, les pierres, la conscience. Il le dit dans certaines phrases, tout ça c'est exactement la même chose, ce ne sont que des reflets qui passent sur des surfaces qui elles-mêmes miroitent à l'infini, dans un régime qui est sans début, sans fin. Autrement dit, une ontologie qui n'est pas du tout celle que, dont on a l'habitude ici. À partir de là, dès lors qu'on est dans ce régime, la catastrophe, hein, dont je parlais tout à l'heure, elle change complètement. On n'est plus dans ce régime où la technique est une sorte de course folle, hein, hein, vers une fin apocalyptique. Hein. On est dans un régime que Nakai décrit souvent par un mot qu'on peut traduire par tragique, mais c'est un tragique en mode mineur. C'est un tragique qui n'a pas du tout cette dimension apocalyptique. Il est tragique au sens où, de toute façon, il n'y a aucun échappatoire à l'échec et à la faute ou à l'incomplétude, hein. Mais qui correspond assez fortement, hein, à une certaine vision qu'on a du monde dans une tradition bouddhique. Ceci dit, combien de temps me reste-t-il, hein? 5-6 minutes. Alors, est-ce que je montre... Je ne sais plus où il est. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. J'aurais dû le lancer plus tôt. Voilà. Donc, je parlais d'une première... C'est donc un portrait de Nakai. Une des... Il y a abandon à la forme de fatalité du monde, hein, et à cet échec qui est la tonalité première de la vie. Mais il y a aussi un abandon qu'on peut situer à un autre niveau, à un niveau plus collectif. Hein, et en particulier dans le rapport à la machine, à l'outil. Il y a très clairement chez Nakai l'idée qui rejoint un petit peu celle de Flusser, de Wilhelm Flusser, hein, qui est un philosophe qui a écrit un ouvrage que vous connaissez peut-être, s'appelle Philosophie de la photographie, où il met en avant le fait que les individus face à un appareil ne sont jamais que des fonctionnaires, ils ne peuvent qu'obéir au programme de la machine, hein, ils n'ont pas de possibilité de sortir de ce qui a déjà été prévu ab initio. De ce point de vue-là, il y a quelque chose qui rapproche Nakai de Flusser, hein, mais il n'y a pas chez Nakai cette idée qu'on trouve, par contre, chez Flusser, qu'on va pouvoir, à certains moments, par le biais de certains photographes, triompher de la machine. Au contraire, on est absolument dans un abandon à la machine. On s'abandonne à la machine. L'individu ne peut rien lui-même. Ce n'est que de façon collective que les sociétés, je dirais, peuvent reprendre pied et d'une certaine manière, pour reprendre le vocabulaire qu'on trouve chez Krakauer, cette idée que sorte de rédimé par la photographie, mais ce sera fort toujours à un niveau collectif. Ce qui fait que, d'une certaine manière, la photographie devient quelque chose de l'ordre d'une méditation de la société industrielle sur elle-même. Ce n'est pas des individus qui saisissent le monde. On n'est justement pas du tout dans le rapport sujet-objet. On est à un autre niveau. C'est la société qui se voit à travers la photographie dès lors qu'on a des opérateurs qui, se sont abandonnés au médium, hein, et qui, dans leur abandon, ont essayé d'évacuer le plus possible leur propre subjectivité, leurs propres idiosyncrasies. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, je trouve, enfin, cette sensibilité dans la création contemporaine, hein, japonaise. On a beaucoup mis en avant qu'il y avait une photographie post-Fukushima, et dès qu'on parle de post-Fukushima, me semble-t-il, dans les langues occidentales, on convoque des métaphores de type apocalyptique, hein. Or, quand on regarde la production photographique qui a été faite au Japon depuis 2011, on n'est pas dans ce régime-là. Le nucléaire ou la radioactivité peuvent être présentes, mais c'est quasiment toujours comme un élément parmi d'autres de sorte de grand miroir qu'est le monde. Et on aura davantage des images qui soit vont aller dans le sens de la répétition, de l'inéluctabilité du changement, de la variation sempiternelle de la catastrophe et de la reprise sur la catastrophe, hein. Ou alors des images beaucoup plus, j'allais dire, sentimentales, hein, riches en pathos, hein, mais un pathos un peu grave et peu tragique, hein, où les cycles alternent les uns avec les autres, comme sur cette image de Hatakeyama Naoya. Vous voyez cet arbre qui à la fois a été détruit et qui repousse. On a cette tension qui est là bien, bien manifeste. Bref, hein, j'ai essayé à travers ce critique, enfin, de montrer une conception de la photographie qui tire la photographie vers autre chose, hein, et que d'une certaine manière on ne peut pas appeler photographie le mot même photographie, parce qu'il y a graphène, ne convient pas bien. Et je termine d'ailleurs mon article par une réflexion non pas tant sur la photographie ou l'esthétique que sur la sociolinguistique, que sur la difficulté de mettre les langues les unes en face des autres, parce que non seulement les mots ne se superposent pas quand on a affaire à des langues très éloignées, mais que derrière, les imaginaires primordiaux, les cosmogonies, ne sont pas les mêmes, hein, et donc on a des tensions qui ne sont pas réductibles, hein. Alors, je ne sais pas si c'est la version Barbara Cassin qui est la bonne, avec son idée des intraduisibles, mais clairement, il y a une prise en compte nécessaire de ces hiatus, hein, lorsqu'on aborde des réalités qui sont situées loin de chez nous.
Il me semble que les deux interventions résonnent fort, c'est que la photographie ne permet pas de fixer le réel, voilà, et qu'il oblige à une mise à distance et quelque part vient inquiéter le sujet d'une certaine façon, puisque, et c'est en ce sens que ça vient, je dirais, mettre en difficulté le mine de rien. Quand on fait une synthèse, quelque part on croit y être, ce qui n'est pas du tout le cas avec ce que vous avez dit. Nous pouvons prendre l'une ou l'autre question, et puis nous poursuivrons avec Guillaume Vial et Patrick Tosani, je ne sais pas dans quel ordre vous irez. Voilà. Éric Charmetan.
J'ai une question par rapport à l'évolution.
Le micro. C'est une bonne question. Le texte de Krakauer ne s'intéresse absolument pas à la technique de la photographie. Donc il prend l'image photographique une fois qu'elle est devant vous d'une certaine manière. Et il y a cet appareil qui agit, mais la question du développement du mieux, parce qu'on sait que le photographe recadre, travaille, crée du contraste, etc., toutes ces opérations ne l'intéressent pas. Donc il a, pour lui rendre justice, il développe dans l'idée, pardon, dans l'image photographique, il y a une double tendance, formatrice, si vous voulez, et celle que j'ai, sur laquelle j'ai davantage insisté. Mais elle reste extrêmement faible par rapport à toutes les catégories qui viennent d'être évoquées. C'est vraiment étonnant avec Nakai. Vous voyez, toutes les catégories sur l'abandon, sur la déprise, restent majeures. Et une manière aussi peut-être de rebondir sur ce que disait Michael Lucan, c'est qu'il est clair que tu as commencé avec le mot catastrophe, en fait. Il est très clair que la théorie de Krakauer arrive avec... Après les textes d'Adorno et d'Horkheimer sur les Lumières, arrive après la catastrophe de l'Europe qu'il a vécue de manière plus personnelle. Donc ça bégaye dans le texte de Krakauer. Donc en fait, si vous voulez, cet endroit, c'est aussi une façon de vous répondre, cet endroit où on touche à l'image, c'est juste, reste très peu par rapport à ce qu'est l'acte photographique comme tel. Autrement dit, ce qui l'intéresse, c'est l'enregistrement beaucoup plus que le développement. Mais il y a une atmosphère similaire avec celle que décrivait mon collègue. C'est une atmosphère de la... Très clairement, ce sont des esthétiques post-45, enfin, post le désastre européen, très nettement. Donc derrière la critique de Kant, il y a la critique des philosophies de l'histoire, enfin bon, voilà. Vous voyez très bien le régime de réflexion qui est engagé.
Peut-être en un mot, ce qui est frappant, c'est que le miroir et l'empreinte avec un support photosensible apparaît comme le symbole, ou en tout cas comme l'image la plus parfaite, je crois, de cette métaphore dont je donnais, ou la parabole dont je parlais tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que cet abandon se restreint là dans cette pensée-là, puisque en fait, dès lors que l'ouvrier fait bien son travail, que l'ingénieur fait bien son travail, que l'artiste fait bien son travail, une dimension morale qui est très forte derrière, hein, on va arriver à se débarrasser de ce qui obstrue et de ce qui colle. On va arriver, d'une certaine manière métaphorique, à balayer, à nettoyer le miroir, hein, qu'on a à la fois en soi et qui est aussi... c'est frappant de voir qu'au Japon, il y a un certain nombre d'artistes, on en connaît d'ailleurs avec Carole, japonais, qui tiennent à maintenir l'argentique, et ils sont assez nombreux parmi les créateurs, mais ce n'est pas un courant complètement dominant. Et j'en profite juste pour... Vous connaissez tous Canon, hein, la marque d'appareil Canon. Canon, c'est le Bodhisattva Avalokiteshvara. C'est Guanyin en chinois, c'est le Bodhisattva de la compassion, celui auquel on s'abandonne au moment de mourir, hein, ou à d'autres moments. On s'abandonne à la caméra, on s'abandonne à la photo.
Puisque
Alors, je réponds pas sur le l'exemple bouddhique. Je te laisse prendre la parole. Parce qu'effectivement, on n'a pas dit non plus qu'on était exactement au même endroit. Là, il y a une. Même si je voudrais quand même partager avec vous cet étonnement que j'ai eu quand je suis allée au Japon dans la grande bibliothèque nationale de Tokyo de découvrir des tiroirs entiers de philosophie allemande. Une fois qu'on a compris qu'il n'y avait pas que le catalogue en japonais, parce que là, bon. Mon expérience allait s'arrêter immédiatement. Je ne parle pas cette langue, mais il y a la connaissance de la philosophie allemande sous l'ère Meiji. Enfin, bon, Michael le dira mieux que moi, est absolument impressionnante. Voilà. Donc les références se croisent et on lit directement dans la langue. Bon, alors pour revenir à votre question, il y a une discontinuité. On est d'accord, si j'ai été clair, on est d'accord que cette image, via la fonction de l'enregistrement, vient discuter la question de la synthèse. Donc, en fait, le sujet face au monde n'est pas dans un geste, justement, quand on utilise l'expression de prendre une image, eux vous rétorquent, on est dépris par l'image, d'une certaine manière. Donc, il renverse le propos qui est tenu. Et il n'y a pas tant quelque chose qui s'imprime que quelque chose qui déborde, avec la même idée qu'il y a, s'il y a une rédemption possible de la réalité matérielle, et j'ai bien dit matérielle chez Krakauer, elle n'est pas spirituelle, s'il y a une rédemption de la réalité matérielle par la photographie, c'est que dans cet abandon, je reprends quand même le mot que mon collègue a utilisé, dans cet abandon, il y a quelque chose qui se dit, quelque chose qui est possible, quelque chose qui se figure, mais de manière, je reprends le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, de manière fondamentalement discontinue, visible, enfin bref, les catégories que je vous ai exposées. Est-ce que j'ai clarifié mon... Donc en fait, la caractérisation, là où on verrait l'image photographique comme ce qui est le claque avec une portion du monde qui est découpée, Krakauer rétorque, vous n'avez pas compris, dans la découpe, ça fuit de tous les côtés. Ça, c'est quasiment une des métaphores qu'il utilise. Donc, la phénoménalité, vous voyez bien qu'elle ne devient pas liquide. On n'est pas dans ce type de théorie, ça ne devient pas liquide du tout. Mais il y a l'idée qu'elle est totalement incertaine et incertaine dans les surprises qu'elle peut vous révéler, justement. C'est-à-dire des moments où il y a une sorte de... d'apaisement, c'est vrai, par l'image photographique, je reprends quand même le mot aussi de mon collègue, l'idée qu'au fond, mais comme il y a chez Benjamin ou dans certains textes, l'idée que la photographie, c'est à la fois ce régime de la modernité mécaniste, etc., avec tout ce que ça charrie, et en même temps la possibilité de quelque chose de nouveau, d'autre, qu'on n'avait pas éprouvé auparavant, si ça me permet de reprendre aussi.
Peut-être en un mot, merci pour votre question. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, à travers cette parabole, que la photographie, ou en tout cas le miroir, serait le lieu où une synthèse d'un ordre supérieur serait réalisée, mais on est quand même fondamentalement dans un régime, je crois en tout cas, dans un régime de façon générale, dans la pensée bouddhique, et en particulier chez cet auteur, qui est sans origine et sans fin. À partir de là, la question de la synthèse ne pointe pas vers une transcendance. Hein. Elle reste absolument dans un régime immanent.
Nous allons passer donc à la séquence. Vous avez publié et puis en collaboration avec Larisa Grionski photo, objet, concept.
Merci beaucoup, Laurent Gallois, de cette invitation et d'avoir permis à ce numéro d'exister. Je voudrais évidemment remercier Carole de m'avoir invité à m'exprimer dans ce numéro et surtout, d'une certaine manière, d'avoir invité l'histoire de l'art dans ce numéro. Je voudrais évidemment remercier Patrick d'avoir accepté de jouer le jeu, peut-être d'un dialogue ou en tout cas d'une petite conférence à deux. Je vais essayer de présenter le travail et puis je donnerai la parole à Patrick pour qu'il nous parle de ces images dont vous avez déjà ici une représentation. Alors moi j'ai choisi à l'invitation donc de Carole Meynier d'écrire un article sur le travail de Patrick Tozani, effectivement que je connais depuis un certain nombre d'années et on a publié ensemble. Alors c'est en fait un livre d'entretien et de textes de Patrick. Moi, je n'ai fait que le travail éditorial en quelque sorte, avec en plus quelques entretiens supplémentaires. Ah pardon, oui. Ah, pardon, comme ça. Je suis désolé. Et donc j'ai choisi d'écrire sur Patrick Tozani dans ce numéro parce que j'ai toujours pensé que l'artiste avait toujours appréhendé dans son travail, et depuis fort longtemps, depuis les années à la fin des années 70, au début des années 80, avait appréhendé la photographie comme un objet réflexif. Alors j'ai voulu mettre dans l'article en évidence comment dans l'ensemble de son travail, c'est-à-dire comment chaque série, comment il s'opérait en fait d'abord une grande cohérence entre les séries et comment cette grande cohérence était construite autour d'une réflexion sur le médium. Alors l'article montre comment chacune des séries est élaborée en fonction d'un présupposé théorique et pour chacune d'entre elles, Tozani, Patrick, donc, établit une hypothèse autour du médium photographique avant d'en vérifier la validité à travers des dispositifs précis. Alors, partant de ce constat, le travail peut être appréhendé dans la continuité, justement, du photoconceptualisme dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire d'une histoire initiée par des artistes historiques de l'art conceptuel qui ont utilisé le médium photographique à la fin des années 60 ou à partir des années 1960 pour véhiculer ou vérifier à l'aide de l'appareil photographique des idées. Mais Patrick Tozani n'est pas seulement l'héritier de cette histoire, il a aussi largement participé dans les années 90 à l'éclosion d'une nouvelle approche et d'une nouvelle pratique de la photographie et concernant son travail spécifiquement. Nous pouvons dégager au moins trois éléments importants, mais ce ne sont pas du tout les seuls. Premier élément, la mise en place, comme vous pouvez le voir dès à présent, de grands formats photographiques dans l'espace d'exposition, permettant ainsi d'élaborer une nouvelle relation et un nouveau rapport entre le corps du spectateur et l'image photographique. Deuxièmement, l'établissement, selon moi, d'énoncés très rigoureux pour chaque série. Et enfin, la construction d'un discours de l'artiste sur le médium photographique et en particulier sur ses éléments constitutifs. Alors, dès ses premiers travaux réalisés à partir entre 1975 et 1978, après une formation d'architecte, Patrick Tozani a cherché à analyser le processus de transfert d'un espace tridimensionnel à l'espace bidimensionnel de l'image photographique. Pour cela, il a d'emblée envisagé un dispositif qui devait permettre, je le cite, un inventaire systématique des possibilités de l'appareil photographique. Et ces dispositifs vont produire un espace photographique tout en prolongeant ses réflexions sur les principes constitutifs, encore une fois, du médium. Tozani n'entend pas seulement vérifier les seules possibilités techniques de l'appareil, mais entend aussi imaginer des dispositifs et des espaces spécifiquement photographiques. Il s'agit en effet pour lui de comprendre et d'interroger la nature du médium photographique en articulant, je le cite, « l'espace physique de l'image » et l'espace mental de la photographie, ce sont ces mots. Ces dispositifs lui permettent ainsi de révéler le point de contact entre ce qu'il appelle, je le cite encore, la nature extrêmement mentale, conceptuelle, et la nature reproductive, mécaniste, de la photographie. Alors, j'aimerais, si tu le veux bien, Patrick, que tu reviennes sur un travail ancien, mais que tu as choisi d'ailleurs de montrer très récemment dans une exposition rétrospective que je n'ai pas vue et dont j'ai oublié le lieu. Donc c'est cet été, il s'agit de l'œuvre Champ intérieur de 1978. Et ma question, elle est très simple, c'est est-ce que tu peux en faire la description, parce que c'est une œuvre un peu complexe à première vue. Voilà, je voudrais que tu nous expliques comment tu as.
Merci Guillaume, merci à vous Monsieur Gallois de cette invitation et de votre invitation à participer indirectement par les textes de Guillaume dans une revue de philosophie. Et donc, alors pour répondre très directement à ta question, cette exposition a eu lieu au château de Montsoreau, près de Saumur, qui est un musée d'art contemporain, qui est un très beau château, un musée d'art contemporain. Les circonstances me permettent de reparler ce soir en premier de ce travail parce que je l'ai montré récemment, alors que c'est un travail très ancien qui a été fait dans le cadre, tu l'as dit tout à l'heure, de mes études, de la fin de mes études d'architecture. C'est intéressant pour moi de situer ce contexte parce que voilà, l'univers de la photographie ne m'est pas familier, a priori. Je n'ai pas étudié la photographie. J'arrive simplement dans le contexte de ces études comme un amateur et comme quelqu'un de très très curieux de cet objet photographique, de cette chose, de cet événement de la photographie qui me surprend depuis déjà pas mal d'années. Et c'est, je vais le répéter peut-être dans d'autres descriptions, c'est pour moi une énigme en fait, dès l'origine, dès que je suis jeune, cet objet, ce protocole ou cette manière de faire une image avec une caméra est absolument extraordinaire et très curieux et très énigmatique. Donc je crois que tout mon travail va reposer sur cette chose insaisissable, mais en même temps très concrète, très pragmatique, et toujours insaisissable. Alors, je vais essayer d'être rapide. Cette image projetée là ne peut pas vraiment vous dire, ne va pas vous montrer grand-chose, que simplement, je vais essayer d'être très concis, des horizons, des paysages, dans la nature semi-urbaine, quatre côtés. Guillaume a parlé de protocole. Je suis effectivement étudiant en architecture. Tout un ensemble de recherches, un mémoire de recherche va consister, comme Guillaume l'a dit, à analyser l'image photographique, à analyser l'appareil photographique, à analyser ce qui se passe par rapport à ce réel qui est devant nous et qui tout d'un coup va être transcrit en deux dimensions par le biais d'une caméra restituée sous forme d'un tirage photographique dont on va pouvoir et donc l'essentiel de mes études, je me suis totalement départi du cadre architectural classique, mais l'essentiel de ces études va consister à analyser avec l'outil photographique et avec l'expérience photographique. Cette œuvre au mur qui date de cette époque-là en est le témoignage. C'est-à-dire, il y a une spéculation théorique sur ce que peut la photographie, mais il y a aussi une résolution formelle, une résolution plastique, où il s'agit de mettre en forme une image, de prendre, de faire des prises de vue, d'enregistrer le réel, mais aussi de le restituer et de le mettre en forme. Et donc la photographie, malgré sa simplicité mécanique, est aussi une d'une certaine difficulté formelle. Voilà. Et donc, pour revenir à cette œuvre, il s'agit d'enregistrer dans le réel un espace délimité, relevé un petit peu comme un arpenteur, sur un terrain défini, où je vais photographier sur chaque côté l'horizon, Et donc, c'est très repéré topographiquement. Et ce réel photographié, c'est d'autant plus difficile pour vous de le comprendre et de le lire, il ne montre pas grand-chose que quatre horizons, nord, est, ouest, sud. J'intègre dans cette démarche l'aspect absolument déceptif de l'opération. C'est-à-dire que je suis très méthodique pour montrer, voilà, je photographie le réel, et en même temps, je ne me fais pas d'illusions. Cette chose est totalement déceptive. Je ne montre pas grand-chose. Je suis désolé, vous ne voyez pas grand-chose, vous non plus. Mais je pars de ce principe que la photographie, c'est aussi ce système d'analyse, c'est aussi ce système de réflexion, c'est la mise en place d'un protocole. Et ici, je vais photographier ce carré, je sais pas si on peut faire défiler, pardon, l'image. Oui, l'image suivante, mais je suis déjà peut-être trop long. Ce protocole va consister à photographier un carré que j'ai repéré dans le réel. Je vais le photographier une première fois sur la périphérie extérieure du carré. Et si on peut, pardon, c'est quelle flèche? C'est cette flèche-là? Non, pardon. Celle-là. Et dans ce deuxième temps, il y a un petit schéma en bas. Je vais photographier je vais faire le même parcours dans l'espace réel, mais je vais photographier l'intérieur du carré. Et donc, je demande à l'observateur, et là, c'est très difficile, pardon, pour vous dans le contexte d'une présentation comme celle-là, mais je demande à l'observateur de comparer mentalement la différence entre la première opération, la photographie de l'extérieur, et la deuxième opération, la photographie de l'intérieur. Et mentalement, si on soustrait les deux opérations, j'ai représenté exactement l'intérieur du carré, c'est-à-dire la chose que je cherchais à cerner et à comprendre. Et en même temps, une fois que je vous ai dit ça, puisque c'est une opération mentale, presque mathématique, visuellement, c'est probablement un échec. Mais j'ai tenté l'opération et alors que je finis mes études à ce moment-là, je crois que c'est le moment où je me définis un programme de ce que peut être la photographie, c'est-à-dire une tentative d'enregistrement, et je dis bien tentative, et en même temps, sachant que cet enregistrement est très fragile, et en même temps, un crédit absolu sur le potentiel de l'image photographique. Bon, je ne sais pas si j'ai éclairé
beaucoup. Je crois qu'il y a quelque chose de très important aussi à souligner dans ton travail, c'est que toute image est à inventer et à construire. C'est-à-dire que même si disons que la question de la reproduction du réel fait partie intégrante de tes investigations, de tes problématiques, tu ne photographies jamais, disons, un événement ou le monde tel qu'il est. Alors je vais passer tout de suite ici. Tu vas inventer et mettre en place des dispositifs pour donc construire une image. Et cette image qui appartient à une série que tu as intitulée Pluie, au pluriel, me semble-t-il, c'est un dispositif, c'est un artifice d'atelier où tu construis en fait une pluie que tu vas photographier. Et cette fabrication de la pluie sous-tend l'idée de l'élaboration de la construction progressive de l'image, et tu posais d'ailleurs la question dans un de tes textes de savoir comment construire une image, comment la remplir métaphoriquement. Est-ce que tu peux revenir sur ce processus justement que l'on a sous les yeux ici?
Alors, cette image ou ces images, parce que c'est un ensemble, c'est une série, c'est une série qui est précédée aussi d'autres séries peut-être équivalentes, où effectivement je pose d'emblée vraiment l'idée d'un j'avais analysé vraiment dans les années précédentes le rapport entre le transfert du réel sur cette image et cet espace photographique. Et en posant vraiment les notions d'espace, alors là, c'est peut-être l'environnement de l'architecture qui m'a nourri de ça, c'est-à-dire que je pose vraiment la photographie comme un espace bidimensionnel, en lien étroit. On a parlé d'empreintes tout à l'heure, on a parlé d'index, on peut parler d'enregistrement, etc. Tous ces termes sont tout à fait justes. Je déploie vraiment, j'interroge vraiment ce moment du lien et ce moment où le réel devient une image construite et un espace autonome. Et c'est cette notion d'autonomie, d'une curieuse autonomie d'ailleurs, puisqu'il y a une connexion absolue au réel, et c'est bien pour ça que la photographie m'intéresse, que je la pratique, qu'elle est très singulière, c'est qu'on est absolument obligé de poser ce lien indestructible au réel. Et assez difficile à résoudre et à comprendre. Alors, pour être concret dans cette image, dont la donnée de base est effectivement la fabrication d'une scène naturelle, d'un espace, puisque j'ai défini d'emblée cette notion, d'un espace à remplir. Et il y a effectivement une évidence pour moi de remplir un espace, par la lumière, ce qu'est la caméra. Hein, c'est la caméra photographique est une boîte miroir du monde, connexe, inversement, si on rentre dans un jeu d'optique, une chambre photographique, c'est le terme d'origine, et il y a quelque part dans cette scène de pluie cet effet inverse de reconstruire et de fabriquer une pluie. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques qui sont pas si compliqués que ça, simplement peut-être à vouloir, pour faire cette image, il y a l'idée très importante de maîtriser la fabrication de l'eau, tout simplement pour des raisons techniques. C'est-à-dire, si cette maîtrise n'a pas lieu, c'est une façon très très simple. Il y a rien de compliqué, mais il y a la connexion aussi, ou le parallèle entre la maîtrise technique, juste faire couler de l'eau, la réceptionner, inventer un sol naturel, et la manière de faire coller cette maîtrise technique à une maîtrise mentale, c'est-à-dire avoir réussi à canaliser un flux d'eau de façon à ce que elle offre une écriture et un écoulement, une écriture qui résonne avec des notions de langage, et ce qui va expliquer effectivement le développement de la série, de cette série des pluies. Et ce que vous voyez sous l'eau, c'est un signe de ponctuation qui représente à peu près une virgule, et le travail est développé vraiment comme l'exacte maîtrise de l'action qui s'y passe. La pluie coule, mais la pluie coule sur un objet qui va dériver le flux de l'eau, et c'est cette exacte coïncidence qui m'intéresse, c'est-à-dire la pluie virgule est une action que je mets en scène dans une référence aussi à l'énoncé même de l'œuvre, enfin du titre de l'œuvre.
Alors, l'autre caractéristique très importante du travail, c'est l'établissement de protocoles d'expérience performative, hein, je reprends tes termes ici. Donc, ce sont des actions souvent très simples, enfin la plupart du temps extrêmement simples, qui sont, disons, étayées par un dispositif photographique. Et donc tu vas imaginer tout au long de ton travail et à travers les séries, une série d'expérimentations et d'actions. Alors on a d'ailleurs ensemble listé ces actions. Il y a mesurer avec des niveaux, remplir avec de l'eau, on l'a vu, du lait, recouvrir avec les vêtements, on peut montrer ici cette image, recouvrir avec de la peinture, avec de la terre, imprégner des objets avec de l'huile, de la colle, broyer, découper, geler, etc., envelopper. Et il s'agit de cette image ici. Je voulais simplement que tu reviennes, s'il nous reste un peu de temps, sur ces expériences, ces expérimentations, et nous dire comment t'es venue l'idée et même la nécessité d'imaginer ces expérimentations pour réaliser des images, pour construire donc des images. Et nous avons choisi deux images ici. L'action d'envelopper par la lumière un objet qui se trouve être une maquette d'architecture, et recouvrir quelque chose de vêtements.
Alors, pardon, sur les vêtements, je ne sais plus où, pardon, ouais. Sur les vêtements, effectivement. Il y a une similitude avec ce que tu as évoqué sur la pluie, ce que j'ai pu dire dans le protocole de remplir l'image, de la constituer, de recouvrir. Il y a des éléments particuliers peut-être sur l'usage des vêtements et l'usage dans de nombreuses images du corps, c'est-à-dire j'ai présenté tout à l'heure, et tu l'as présenté, je crois, dans la façon d'interroger la photographie. J'aborde les questions conceptuelles, mentales, mais je suis toujours sur un même pied d'égalité à dire que je produis une forme. Je réfléchis une image, je réfléchis sur les notions d'enregistrement, sur la mise, mais il y a toujours une forme photographique qui est mise en place. Et là, on parle d'un objet formel, de plastique, de voilà. Et donc là, c'était le cas pour les pluies. Il y a une dimension. Et c'est le cas pour des séries avec le corps qui vont venir après. Et j'utilise souvent cette notion d'une physicalité de l'image, d'un impact concret, c'est-à-dire vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, l'aspect mental de l'image et cette grande distance, ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la question du dessin et de la peinture et pourquoi la photographie a cette singularité, je reviens par rapport aux propos que vous avez. La singularité de la photographie, c'est la mise à distance. C'est cet objet, c'est cette chose, c'est cet appareil mécanique qui nous met absolument à distance des choses. On ne le touche pas. Un appareil photo ne touche pas le réel. Elle capte, elle enregistre, elle indexe, elle emprunte, mais on ne touche pas. L'appareil photo ne touche pas. Et donc, cette mise à distance est très intéressante. Et moi, je prends le parti avec le travail que j'engage, justement, de peut-être compenser cette chose, compenser cette mise à distance, fabriquer une forme, la mettre dans, Guillaume l'a dit tout à l'heure, la mettre dans un espace. La photographie est une chose mentale, mais c'est une chose aussi qu'on porte, qu'on touche, contrairement à la manière d'enregistrer. Et donc, les images du corps vont prendre beaucoup de place, et en l'occurrence ici, ces images de vêtements sont une extrapolation du corps, une interrogation du corps. Et cette série très très courte a consisté justement d'une façon très aléatoire à recouvrir des corps. Donc là, il y a un corps sous ses vêtements, mais de façon très informelle, très indécelable. Il y a aucun élément qui vous donne cet indice. Dans deux autres images, on peut peut-être avoir une suggestion de forme, mais rien ne dit ça. Simplement, c'est une manière de recouvrir un corps de façon totalement aléatoire, informelle, déconstruite, par rapport à la structuration convenue ou conventionnelle d'un corps. Alors, c'est peut-être cette vue d'exposition qui met en parallèle justement un corps. Pardon, tu voulais peut-être.
Non, je voulais peut-être préciser effectivement l'importance aussi de voir les vues d'exposition dans ton travail. Peut-être tu peux nous donner les dimensions de l'image que l'on vient de voir à l'instant.
On vient de voir qui doit être à peu près entre 2,50 m de haut par 4,50 m de longueur. Donc c'est effectivement des images très, très monumentales pour lesquelles les lieux d'exposition, que ce soit un lieu d'exposition ou l'atelier même dans lequel j'ai expérimenté l'image, je l'ai testé, sont effectivement très importants. Et le corps qui est à gauche, le corps vu du dessous, c'est-à-dire c'est un corps ramassé sur lui-même, posé sur une feuille, un plan transparent en plexiglas. Et donc c'est tout le poids du corps qui se compresse parce que le modèle est accroupi. Et c'est le poids de son corps qui se compresse sur lui-même et qui refigure une vue particulière et une vue particulière presque objective d'un corps, ce qui est peut-être paradoxal de définir l'objectalité ou l'objectivité d'un corps. Ça a peut-être un sens décalé, mais pour moi qui a un sens très physique de l'image, c'est-à-dire augmenter la nature physique de l'image par le biais ou par le médium de ces modèles.
Et puis on voulait finir avec une série dite des cuillères. Dans le cadre d'une exposition ici aux Nymphéas, dans les Nymphéas, dans le bâtiment des Nymphéas de Monet, donc c'est le vestibule qui précède donc la première salle des Nymphéas de Monet, et on t'a invité donc à exposer là, et tu as donc choisi d'y exposer ces cuillères qui effectivement sont des objets extrêmement pauvres dans ce cas, des objets du quotidien, mais qui sont utilisés, je crois, ici pour leur capacité à capter et à restituer la lumière. Donc il y a évidemment un jeu avec ce que peut la photographie, mais il y a aussi, et c'était la relation de ces images avec le corps, un jeu avec le corps du spectateur, puisque ces images mesurent à peu près 1,80 m de haut. Est-ce que tu peux revenir très rapidement sur ce choix d'avoir choisi d'exposer des cuillères avant les Nymphéas de Monet? Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre les deux?
Le contexte de l'exposition, j'ai été invité par la directrice du musée de l'époque, Cécile Debré. Le choix revient aussi à la directrice du musée. C'est une série, donc c'est une exposition assez récente, mais c'est une série plus ancienne qui est effectivement à rapprocher à, par exemple, qui vient peu de temps après la série des pluies qu'on a évoquée tout à l'heure, et dont, pour moi, l'objectif, le mot peut-être tient dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire il y a un rapport au réel qui devient un rapport aux objets, dans un sens pas du tout esthétique, d'une esthétique de l'objet ou d'un intérêt pour l'objet particulier, puisque j'en ai décliné quelques-uns de différents, mais surtout sur son potentiel à décrire le monde. Et donc ces objets sont choisis pour leur simplicité et leur côté très ordinaire, mais sur leur capacité réactive, interactive presque, à regarder et à concentrer une idée. Et l'idée, tu l'as décrite en décrivant les pièces, c'est-à-dire est simplement de considérer que la cuillère dans son usage est un objet qui transporte de la nourriture, qui transporte une matière, mais qui, en l'occurrence, photographiée dans cette nature, dans ce travail de la photographie, je propose une équivalence, justement, entre une matière, une énergie, et la lumière en elle-même. Et c'est pas la lumière, c'est pas la nourriture qui occupe la cuillère, c'est la lumière qui occupe la cuillère, et qui se transforme effectivement, très concrètement, en miroir. Et je considère donc dans cette série la cuillère comme un objet. Je transgresse peut-être l'usage, et pour ça la photographie a vraiment sa raison d'être, c'est-à-dire elle joue son rôle de miroir, elle joue son rôle d'enregistrement, mais elle a aussi cette capacité de miroir, et la série est déclinée comme effectivement un jeu sur la manière dont l'objet capte la lumière, mais nous la restitue. Donc ça, c'est la prise de vue photographique qui fait ça, mais c'est aussi l'image photographique agrandie d'une façon précise. Tu l'as rappelé, le tirage fait 1m80, il fait la taille grosso modo d'un corps physique, le corps physique de moi, l'auteur ou ayant fabriqué l'image, mais le corps physique du spectateur dans un lieu d'exposition ou dans l'atelier, peu importe, le corps physique qui regarde une image, et avec l'idée que voilà, une image se regarde avec ses yeux, c'est une évidence, mais une image se regarde avec son corps, une image voilà comme une extension d'une potentialité que peut avoir l'image. L'image est une chose mentale, mais l'image est aussi un objet physique. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là.
Je trouve personnellement intéressant d'avoir suivi cet ordre des présentations. Parce que, d'une certaine façon, ce que Guillaume Le Gall et Patrick Tosani vous avez présenté, je serais tenté de dire, prend un peu à rebours ce qui était dit dans la première partie. Peut-être parce que, dans la présentation qui vient d'être faite, on est davantage mis, finalement, du côté de celui qui produit l'image. Et d'ailleurs, dans le champ lexical que vous employez, il y a circulation entre image et photo, de celui qui produit l'image, alors que dans la première partie de la soirée, on est davantage devant l'objet image, avec les implications que vous avez soulevées l'un et l'autre. On ne peut pas mettre la main sur le réel, tandis que quand on est du côté de celui qui produit l'image, quelque chose est mis en place. Et le fait de rappeler qu'au départ, vous avez une formation d'architecte, il est important que vous ayez aussi mentionné au fur et à mesure les dimensions des photos que vous... Enfin, j'emploie photo, si ça convient, que vous avez créées, qui impliquent de la part de la personne qui regarde, qui implique son corps d'une certaine manière. Parce qu'on ne voit pas une cuillère de la même façon quand on ouvre son tiroir que quand on est mis en face d'une élaboration qui mesure 1m80 ou plus. Voilà, en tout cas, je trouve que le titre, les dispositifs réflexifs de Patrick Tosani, l'article que vous signez, Guillaume Le Gall, nous met bien devant le travail du photographe, et en particulier quand vous avez dit, vous voyez, c'est des tissus, il y a un corps, de certaine manière, il y a que vous qui le puissiez le savoir avant de le dire. Et donc, il y a une signification qui échappe. Voilà. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier de cette à deux voix. Peut-être pouvons-nous prendre quelques questions. Nous avons le temps. Allez-y. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
Non. Je voudrais juste avoir bien saisi. Je prie de m'excuser pour ce nez bouché qui est un cauchemar. J'en suis confuse. D'ailleurs, on n'est pas que deux. Je pense qu'il y a d'autres gens concernés. Vous voulez dire la question des correspondances entre les images photographiques elles-mêmes? Alors, il y a plusieurs. Dans un sens, pardon? Oui, vous avez quelque chose en tête, c'est ça que je veux bien que vous explicitiez. Ah bon, bah écoutez. Oui. Alors, si j'ai saisi, mais je ne suis pas la seule à répondre, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'évoque immédiatement soit la question des collages, donc qui est une des techniques aussi pour faire de l'image photographique en combinant des images photo. Comment ? Oui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que ça m'évoque, ça peut correspondre à la même période historique, c'est de la photographie surréaliste qui joue d'autres registres peut-être que ceux qu'on a évoqués là ce soir. Voilà, c'est à ça que je penserais si je. Non, mais je vous en prie.
Peut-être oui.
Ah, pardon.
À vrai dire, ça me merci pour votre question. Moi, elle m'évoque la question du montage. Et donc, elle rebondit sur la question du cinéma. Et l'auteur sur lequel je travaille, l'auteur sur lequel je travaille, qui, comme je le disais, a beaucoup mis en avant l'idée qu'à travers la machine, on a une déprise sur le monde et d'abandon qui est obligatoire pour l'opérateur. En revanche, met en avant le fait que l'essence du cinéma, qui donc est à la fois une manière de sauver aussi la photographie, c'est dans l'articulation de ces images, puisque d'une image à l'autre, à partir du moment où on les séquence, alors bien sûr c'est pas dans le même plan spatial, parce qu'à partir du moment où c'est le même plan spatial, on peut considérer qu'on a affaire à de nouveau une nouvelle image unique, même si elle est double. Dès lors qu'on est une séquence, il y a la possibilité de retrouver une forme d'autonomie. Pourquoi ? Parce que, dit-il, il n'y a pas de copule en image. Il n'y a pas d'être en image. Il n'y a pas d'élément qui permet de dire qu'entre, par exemple, un visage avec les yeux tournés vers le haut et un ciel bleu, l'image d'après, qui pourrait être un raccord un peu banal pour dire que quelque chose va bien se passer, il n'y a pas ce être. Et donc là, il y a une forme de liberté qui est redonnée à la fois à l'opérateur et au spectateur. Bref, ça m'évoque cette question de l'ouverture vers le montage et du cinéma.
On peut peut-être prendre une autre question. Allez-y.
Je voudrais vous en poser une, Patrick Tozani. Je suis très intéressée par l'ensemble des images. Je pense que celle-là, par exemple, pourrait faire partie de la rédemption de la vie matérielle dont parle Krakauer, puisque ça. Enfin bref, bon. J'ai une autre question qui porte sur, si j'ai bien saisi la manière dont vous travaillez, l'importance de travailler sur des séries. Le fait que c'est peut-être une manière aussi de prolonger votre question, non pas produire une image, mais une image dans une série d'images qui sont autant de variations ou de réflexions sur le présupposé de départ. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point ?
Merci. Oui, j'aurais une. Il y a peut-être différents niveaux pour vous répondre. Je crois que là, il y a un niveau, c'est très lié à l'objet photographique lui-même, enfin à la technique, à la machine photographique elle-même, à sa simplicité d'une certaine façon de production, mais c'est une simplicité mécanique, mais qui aussi entraîne énormément de notions, c'est-à-dire de notions de comparaison, de notions de quantité, produire, comparer, bouger, enfin, c'est-à-dire que le potentiel de la caméra dans un sens général produit cette capacité à comparer, à construire, à faire évoluer le regard, et à partir de là, effectivement, vous l'avez évoqué, à infléchir les choses, observer, mais avec tout de même des arguments comme l'a développé Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a des présupposés et il y a pour les cuillères qui sont encore là à l'écran, il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté effectivement de décliner la manière dont la lumière allait parcourir l'objet et parce que, en présupposé, j'avais dit que cette chose était un capteur et un émetteur, et je voulais en procéder à une vérification. Enfin, je l'énonce, pardon, d'une façon un peu directe, mais c'est ça, parce que ça dure, je dis direct, parce que ça s'est pas fait en 5 minutes, ça dure des semaines et des mois, et l'objet est... Voilà, donc il y avait une vérification à faire sur la manière dont cet objet, effectivement, en résonance avec son usage, la nourriture, la matérialité, comment la lumière pouvait traverser l'objet, réfléchir. Et il y a, voilà, très concrètement, il y a une manière dont la chose va être résolue, va être un échec dans beaucoup de cas, mais va être résolue et va être... close par peut-être épuisement ou saturation, et voilà, et les images ne diront plus rien, donc la série va se construire, voilà, sur tout ce cheminement.
Oui.
C'est d'une certaine façon une question, effectivement, oui, qui se pose, que quelques théoriciens là, depuis un certain temps posent, d'une manière presque anthropologique, c'est-à-dire comment cette chose née il y a 150 ans, 170 ans, modèle complètement la société et le monde, et moi, personne, puisque vous m'avez adressé la question, effectivement, il y a une vraie interrogation sur cette extension de l'œil. Oui, ça c'est une lecture qu'on peut avoir. Je crois que ça a été d'une façon très théorique ou anthropologique déjà bien questionné, puis je ne serais pas capable de le développer. Oui, je crois qu'il y a plein de... Enfin, dans la naissance de la photographie et toute l'évolution qu'il peut y avoir avec... évidemment, il faut parler du cinéma. Il y a cette espèce de... Je suis d'accord, de proximité, de collage, et en même temps... en même temps, une grande oui, la mécanique est la même ou elle est proche, mais il y a un aspect mental, il y a une distance, il y a, il y a, il y a une question d'échelle absolument primordiale, de la distance des choses, la distance qu'on a au réel. Donc je suis d'accord avec cette similitude et je m'en sens proche, mais je crois qu'il y a une... Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une intuition pour moi d'une distance et d'une mise à distance fondamentale. Donc, voilà, je sais pas si je réponds, pardon.
Peut-être ce qu'on peut ajouter quand même, c'est qu'il y a une vraie construction de l'image. Et ici, en l'occurrence pour les cuillères, la question du dispositif, c'est-à-dire tout ce que Patrick va établir pour construire cette image est fondamentalement différente de la perception, enfin, me semble-t-il.
Non, je pense que vous avez raison de le dire comme ça, de ce qui prévaut, c'est l'expérience, l'expérience du réel, l'expérience, j'ai présenté tout à l'heure l'importance de cette expérience photographique, donc l'expérience du réel, ou en tout cas la photographie me sert à jouer cette expérience, enfin, comme d'autres le feraient avec d'autres médiums, avec la littérature, avec la peinture, avec la théorie, avec le langage. Enfin, j'ai évoqué tout à l'heure effectivement cette énigme photographique qui me tient depuis un certain temps et pour lequel je pourrais passer à autre chose, mais sa simplicité, la simplicité de l'expérience, et d'autant plus de nos jours, enfin à chaque époque on dit la même chose, mais effectivement à un moment où on produit des milliards d'images quasiment par jour, c'est absolument sidérant, mais ça n'enlève en aucun cas la question que pose cette curiosité, quoi, de ce que vous avez évoqué dans le laisser aller, dans l'abandon, dans l'idée du miroir que vous avez évoqué, l'idée, c'est un terme que je m'approprie beaucoup d'expérience ou d'expérimentation. J'ai l'impression que mon travail, si je devais l'évoquer rapidement, est une succession d'expérimentations.
Une dernière question pour monsieur.
La différence, peut-être dans la question, est en connexion avec la question précédente ou la remarque. La différence, c'est l'expérience. La différence, c'est la mise à distance de cette expérience par le biais de la photographie. Donc effectivement, je n'ai aucune envie ni capacité de produire une forme sculpturale dans l'espace, ni l'intérêt, parce que la photographie nous met à distance de tout ça, et ça c'est formidable. Enfin, formidable au sens, pardon. Ça c'est très curieux, voilà. Cette mise à distance est très curieuse. Cette mise à distance, c'est pas simplement... ça peut être comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'abandon. Ça peut être, mais c'est alors je j'espère que je simplifie pas ma réponse en vous disant ça. Les formes élaborées sont sophistiquées, quelquefois sont des formes sculpturales. Il y a des liens, vous le savez sûrement, une grande proximité entre la sculpture et la photographie. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'histoires. L'idée de faire cette expérience, de se mettre à distance par le biais de la photographie, n'a rien à voir avec une forme sculpturale et une installation. Là, j'en suis absolument. Je ne sais pas si ma réponse est assez complète, pardon.
Il est 21h30, bientôt. Donc, nous arrivons au terme de la soirée. Je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre d'avoir contribué à ce numéro, de nous faire réfléchir, parce que c'est un dossier qui fait réfléchir, et d'être venu le présenter ce soir. Et merci, Patrick Tozani, de vous être déplacé aussi. Voilà. Merci.